La voix est libre. Au FM 93. Voici Luc Lavoie.
Salut mon Luc.
Salut Eric, ça va?
Écoute, ça va, mais au sud de nos frontières, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Même chez vous à Montréal, là, ça a brassé dimanche, puis j'ai l'impression que ça va encore brasser ce week-end. Là.
Ouais, j'espère que t'as pas raison, là. Mais enfin, au sud de nos frontières, c'est autre chose, là. C'est des dizaines de villes qui sont sous couvre-feu. C'est des menaces de faire intervenir l'armée régulière. Et là, on vient d'apprendre ce matin que Mark Esper, je sais pas si tu l'as vu, Eric, c'est nouveau, là, a annoncé que lui était contre l'idée de faire intervenir les forces armées contre la population américaine ou contre des citoyens américains.
T'en penses quoi de ça, l'armée? Est-ce que l'armée doit intervenir quand il y a des émeutes, oui ou non?
Ben, la réponse, c'est non, pour la raison bien, bien simple que la façon dont est structuré l'appareil de sécurité des États-Unis, il y a des gardes nationales dans chaque État. Et ces gardes nationales-là sont effectivement des militaires. En fait, ils constituent la force de réserve des forces armées américaines. Et vraiment, là, à moins que tu aies un combat opposant deux clans, comme à l'époque du général Lee puis de Ulysses Grant, là.
L'armée intervient pas. Mais parce que nous autres, au Québec, on a connu ça en 1970. Le gouvernement nous a envoyé l'armée, là.
Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que l'armée est là. La garde nationale, c'est l'armée.
C'est pas comme la SQ, ça, là.
Non, la garde nationale, ils sont armés comme des militaires. En fait, ils sont déployés dans des théâtres d'opérations comme l'Afghanistan, l'Irak, tout ça. C'est la force de réserve des forces armées américaines. Mais structurellement, depuis la création du pays, hein, tu te souviens que chacun, dans notre histoire, chacun des États tenait à une sorte d'autonomie. Oui. Et parmi les choses qui ont été concédées aux États, c'est le contrôle sur la garde nationale qui est devenu, avec le temps et par tradition, une force de réserve des forces armées américaines. Alors, tout ça, c'est de l'esbrouffe. Tout ça, c'est pour péter ses bretelles. Ça n'a rien à voir. Disons que j'épouse la... Pour un instant, puis c'est pas le cas, là, mais pour un instant, j'épouse l'idée que des troubles de ce type-là, il faut réprimer ça dans les plus brefs délais et avec autant de force et de vigueur que possible. Disons que j'achète ça pendant une seconde. T'as pas besoin de déployer les Marines.
Non.
Tu prends la garde nationale. Tu sais, c'est tout ça, c'est un...
Mais tu peux pas non plus laisser les casseurs tout saccager comme on a fait à Montréal dimanche. Là. À un moment donné, il faut que les policiers sont pas là pour les garder faire.
Oui, oui, absolument. Mais entre ça puis dire je vais déployer l'armée, parce que l'armée, d'abord, ils sont pas entraînés pour ça aux États-Unis. Ceux qui sont entraînés pour ça sont effectivement les soldats de la garde nationale. Alors, c'est tout un paquet de...
Puis pourquoi ils ont pas envoyé les soldats de la garde nationale?
Ils le sont.
Ils sont pas assez nombreux ou quoi?
Ben, ils sont assez nombreux. En fait, c'est le gouverneur de chaque État
qui décide
combien il en veut. Alors, ils sont déployés au Minnesota présentement. Ils sont déployés dans d'autres États aux États-Unis. Mais c'est combien t'en veux? Puis en plus, il y a cette idée, les règles d'engagement, je sais pas si c'est une bonne traduction, on appelle ça en anglais « rules of engagement ». Qu'est-ce que tu donnes comme ordre à tes soldats de la garde nationale quand tu les déploies? Tu leur donnes l'ordre de quoi? Est-ce qu'ils ont l'ordre de tirer? Est-ce qu'ils ont l'ordre de tirer des balles de caoutchouc?
D'arrêter du monde?
Est-ce qu'ils ont l'ordre d'arrêter des gens? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs particuliers pour les détenir? Bon, tout ça, c'est une autre discussion. Mais jeter de l'huile sur le feu, comme l'a fait Trump, c'est j'en viens pas, c'est irresponsable.
Parce que là, il s'arrête plus, là. Mais en même temps, je me souviens, rappelle-toi de l'époque de Barack Obama à Baltimore, ça avait brassé sur un moyen temps, là. Et... c'est peut-être pas évident parce que ces gens-là, même politiquement, sont beaucoup plus radicaux que la classe politique, même à gauche, là.
Ah, oh, ben, tu parles des casseurs.
Ben oui. Mais c'est eux autres qui ont le problème.
Oui, puis c'est eux autres qui ont le problème, mais il n'y a pas que des casseurs dans la rue aux États-Unis à l'heure actuelle, là. Je veux dire, je regardais les images hier, tu vois bien du monde de la classe moyenne.
Mais comme à Montréal, la majorité, c'était pas des casseurs.
Ben voilà,
mais on a parlé juste des casseurs.
Ben oui, mais là-dessus, moi, je me demande souvent pourquoi est-ce que la police, nos corps policiers à nous, ici à Montréal, n'ont pas les renseignements suffisants pour être capable de les voir puis de les arrêter, ces casseurs-là, parce qu'ils sont pas 2000. C'est une gang de bums d'une cinquantaine, puis ils font tout le temps les mêmes trucs, puis ils se dissimulent à travers la foule.
Ouais, ça gagne le contre la brutalité policière. À tous les ans, ils organisent des manifestations, puis ça revient toujours tout croche.
Mais là,
je veux revenir aux États-Unis par rapport à Trump, parce que c'est sûr qu'il jette de l'huile sur le feu, il est en train de diviser le pays. Est-ce que ça peut être politiquement bénéfique ou c'est une catastrophe?
C'est clair qu'il fait le calcul que ça peut être bénéfique. Il se dit, bon, aux États-Unis, on appelle ça une guerre culturelle. T'as la gang avec des grosses barbes, puis des AR-15, puis des chaînes, puis tout ça, là. T'as une espèce de gang qui est totalement vendue à Trump. Après ça, t'en as d'autres qui, à force d'écouter Fox, c'est incroyable ce qu'on peut entendre sur Fox, c'est particulièrement à l'émission de Sean Hannity, ils sont tellement habitués à ce discours-là qu'ils continuent d'appuyer Trump. Mais Trump, le calcul qu'il fait, c'est le suivant. Il se dit, d'abord, les Noirs voteront jamais pour moi. Alors, oublions ça, là, ça compte pas. Puis lui, il y a juste ça qui compte dans sa tête, les votes, là. Alors, les Noirs, ils voteront pas pour moi.
Puis Biden est très populaire avec les Noirs, en passant.
Il est très populaire avec les Noirs, c'est vrai, oui. Alors, ils voteront pas pour moi, donc je m'en balance. Deuxièmement, toute cette espèce de racaille, là, comme les voix Trump, là, de la gauche, là, qui veulent manifester, là, il fait le calcul que les Américains détestent ce genre de troubles auxquels ils sont soumis à l'heure actuelle et qui vont aller vers un homme fort. Puis ça va avec la trame narrative de la Chine. Tu sais, il est en train de se bâtir une campagne électorale qui est basée sur deux idées. D'abord, la Chine, c'est des gros méchants. Ils ont empoisonné le monde entier avec un virus. Ils nous ont menti tout le long. C'est le temps qu'on les mette au pas. Puis c'est un parti communiste, puis c'est un régime répressif. Puis regardez ce qu'ils font à Hong Kong. Puis il va continuer à monter le ton jusqu'au 3 novembre. Ça, c'est. Puis il va donc dire, il en découle, là, dire aux gens, voyez, avec un gros méchant comme eux autres, là, voulez-vous Joe Biden pour leur faire face?
Qui peut tenir tête à la Chine, c'est-tu voilà, Trump ou c'est Biden, c'est
voilà.
Ça?
Puis deuxièmement, c'est la bande de casseurs, là. Qui peut s'en occuper? Joe Biden. Joe Biden, il les aime. Alors,
c'est ses électeurs.
Alors, il va jouer sur ces deux boutons-là. Sauf que. Je sais pas, on dirait qu'il y avait... Je parlais avec un Américain récemment qui avait... C'était un gars plutôt instruit, raffiné, tout ça, mais qui avait voté pour Trump parce qu'il en pouvait plus des Clintons, patati patata. M'a dit, il se fera pas prendre une deuxième fois. Hein. Il est gêné, pas à peu près. Là. Il regarde ça aller, mais c'est incroyable. Et n'oublions pas la puissance de cette image du policier blanc à Minneapolis avec le genou, là. Puis quand le gars crie, je peux pas respirer, il met tout bonnement avec nonchalance la main dans sa poche, puis il redonne un petit coup de genou. Ils l'ont montré au ralenti l'autre fois. Écoute, ça fait le tour du monde. C'est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. C'est incroyable.
Mais je reviens un peu à la politique parce que ça prend de l'ampleur, mais... Tu sais, ça fait pas, c'est pas d'hier, là, les problèmes, les tensions raciales aux États-Unis. Ça fait deux siècles, là. Ce
pays
est basé
là-dessus, inventé par Trump,
là. Ça n'a aucun rapport. C'est comme nous autres, les Anglais et les Français. Hier, là, juste te donner une idée, là, Luc, j'ai fait une tribune téléphonique pour savoir est-ce que vous pensez qu'il y a du racisme systémique? Est-ce qu'on est raciste à Québec, oui ou non? OK? Mm-hmm. Ben, il y a un anglophone qui a appelé le premier appelant. Puis là, il a commencé à dire qu'il y avait du racisme contre les anglophones. Puis il revenait avec la loi 101 puis tous les débats qu'on a depuis au Québec depuis toujours. Là. Mm-hmm. Et là, ça a parti, toi, un débat entre les Anglais et les Français. Okay?
Ah oui.
Puis, en quelque part, c'est normal parce que nous autres, notre division est pas raciale, elle est linguistique.
Oui.
Puis, on est basé là-dessus, l'histoire. Le Canada s'est bâti sur une dualité, mais c'est pas celle des races, c'est celle des langues. Aux États-Unis, ils ont un passé là-dessus. C'est ça qui est difficile à comprendre pour nous autres. C'est pour ça, quand les gens manifestent à Montréal, je trouve que sont en décalage, sont déphasés. Ça n'a rien à voir avec notre réalité. On n'est pas dans cet univers-là. On peut difficilement comprendre.
Non, effectivement. Et le type de haine que tu as vu dans le regard de ce policier-là, on connaît pas ça au Québec.
Mais non, c'est ça, je te dis. On comprend pas ça. Ça fait pas partie de notre histoire, de notre culture. C'est les Noirs qu'on a à Québec. Nous autres, on pense aux étudiants à l'Université Laval. T'sais, moi, je me souviens, quand on se battait, quand j'étais petit dans les ruelles, le Luc, on se battait pas contre les Noirs ou contre les Blancs contre les Noirs comme aux États-Unis. On se battait les Anglo contre les Franco, puis des Noirs, quand ils étaient haïtiens, ils étaient avec les francophones, puis quand ils étaient jamaïcains ou de pays africains d'origine anglophone, ils étaient du bord des Anglais. Non, mais c'était le même.
Oui. Mais il n'y a pas au Québec, et là-dessus, je tiens à le dire, il y a une espèce de petit racisme quétaine au Québec, là.
C'est quoi ça, du racisme quétaine?
Ça, c'est quoi du racisme quétaine? C'est. Moi, je suis pas raciste, mais tu sais, la dernière joke sur les Noirs, c'était l'affaire, puis tu sais, bon.
Je suis pas raciste, sauf que...
ouais, puis c'est ça. Puis la preuve que je suis pas raciste, j'ai deux amis qui sont Noirs. Puis bon, ces niaiseries-là, là, mais il n'y a pas au Québec cette envie de voir un Noir mourir, étouffé, humilié. Ça n'existe pas. C'est dans l'ADN des États-Unis, c'est le péché originel, pour reprendre le vieux langage catholique, de la Grande République américaine. Et quand, évidemment, avec le temps, ils ont réussi à calmer les choses. Écoute, le sort des Noirs aujourd'hui, comparé à ce que c'était en 1960, ça n'a strictement rien à voir. Toutes les lois ont changé, fin de la ségrégation, tout ça. Mais cette espèce de cet inavouable péché originel dort encore dans l'âme de beaucoup d'Américains, puis il s'agit de le gratter un peu, puis ça bang, ressort. Ça ressort.
Ça a pris un incident, un meurtre, une affaire, une histoire, une vidéo, parce que moi, je pensais honnêtement que c'était fini. Je pensais, moi, que Obama, le fait qu'Obama, tu sais, qu'un noir accède
ouais, moi aussi,
à la présidence
que ce
américaine, je pense que c'était fini. Je pensais qu'on avait tourné la page, puis c'était comme le sexisme, puis l'homophobie, puis pour moi, dans ma tête, c'est fini, ces combats-là. Là, ça, il s'est réglé, là, tout le monde, le système est du bord des minorités quand ils sont discriminés. C'était dans ma tête, le système, le racisme systémique, c'est ça, là.
Mais le comportement, le langage de Trump depuis qu'il est devenu président des États-Unis et même pendant sa campagne pour la présidentielle, se nourrissait de cette espèce d'inavouable péché originel, mettait un peu d'huile sur le feu.
Tu penses que le policier, c'est à cause de Trump? Tu penses que le policier n'aurait pas tué le noir si Trump n'était pas président des États-Unis?
Non, je ne suis pas prêt à dire ça, mais je suis prêt à dire, par contre, que ça n'a certainement pas aidé. Le climat est affreux aux États-Unis sur le plan racial. Bon, on le sait, ça.
Il y a quelqu'un qui m'écrit, il est irlandais, puis il dit, nous autres, c'est les catholiques contre les protestants. C'est ça. Chaque pays a son espèce de combat interne, puis de division intérieur.
Manichéen.
C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est celui-là, puis nous autres, c'est anglo-franco. Là.
C'est clair.
Mais où ça s'en va, cette histoire-là? Comment qui peut rassembler? Est-ce que Joe Biden peut être un chef rassembleur?
Joe Biden, à mon avis, il ne peut pas être un chef, point. Parce qu'il est une version diminuée de ce qu'il a déjà été. Écoute, tu peux en parler assez ouvertement. Mon père est décédé le 1er avril, et depuis à peu
Sympathie.
Près... Merci. Depuis à peu près... 7 ans, il vivait ce qu'on appelle la démence vasculaire, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'Alzheimer. Tu perds ta mémoire graduellement, puis aussi tes inhibitions, puis tu as des comportements étranges, puis tu mélanges les concepts, puis tout ça. Moi, je regarde aller Biden, puis comme tu vois, ils lui font plus donner d'entrevues, là, parce qu'à chaque fois, il fait des conneries.
Mais parlant des Noirs, quand il est allé dire que si tu votais pas pour lui, puis t'étais noir, t'étais pas un vrai noir, c'était pas fort, ça.
Non, c'était pas fort, mais c'est ce que je veux dire, c'est pire que ça. Tu sais ce que je veux dire. Quand tu le regardes en entrevue, tu vois bien que le gars est pas, excuse l'anglicisme, sharp, là,
t'sais. Mais ils vont pouvoir le cacher pendant 6 mois?
Ben, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je continue. Écoute, prenez pas ça comme une prédiction, ça en est pas une.
OK.
Mais je n'exclus rien aux États-Unis. Il inclut un mouvement à l'intérieur du Parti démocrate pour dire ça nous prend Andrew Cuomo. Cuomo a remonté sa cote d'une façon incroyable à cause de sa gestion de la crise dans l'État de New York. Et Cuomo serait un adversaire qui pourrait y répondre du tac au tac à Trump.
Mais pourquoi
c'est
pas présenté à l'investiture, Cuomo?
C'est parce qu'au moment où il a fait ses sondages, c'était pas lui qui gagnait. C'est pas
mais pourquoi compliqué. Biden était aussi populaire chez la base démocrate? C'est ça,
d'abord,
je comprends
pas. Il l'était pas au début, là.
C'est vrai que c'était pas clair.
C'était loin d'être clair, puis n'eût été de l'intervention d'Obama en faveur de Biden à la veille de la primaire en Caroline. Là.
Ouais.
Avant ça, là, personne ne le voyait
c'était
gagner.
C'était Barry Sanders qui se ramassait là.
Ouais,
l'establishment s'est coalisé pour bloquer Sanders.
Voilà. Alors, maintenant, c'est comme je te dis, je n'exclus rien. Aux États-Unis, tout est différent d'ailleurs.
Parce que sérieusement, tu peux pas passer 5 mois, surtout une campagne électorale
américaine.
Pense
à une autre chose.
Tu peux
là.
Pas être dans le garde-robe, mettre ton chef pendant 5 mois, puis montrer le candidat à vice-présidence ou des gouverneurs ou des maires, ça marche pas. Là.
Déjà, ça devenait suspect là, de pas le voir du tout. Là, ils le font sortir, puis lui font lire des télésouffleurs.
Mais il y avait le prétexte de la COVID, mais là, ils l'auront pas éternellement.
Non, ils l'ont plus, là. Ils l'ont plus vraiment, là. Alors, Biden, moi, je suis pas sûr qu'il va se rendre à la présidentielle. Maintenant, les gens vont dire, mais sur le plan de la constitution du parti, tu sais, je vais dire une affaire, là. Quand t'as vraiment tout un groupe d'influents personnages qui décident que la constitution du parti, on va s'organiser avec ça, là. Ça peut aller vite. Donc, je répète, pour tes auditeurs, pour nos auditeurs, pour toi-même, je ne fais pas une prédiction. Je dis que Biden n'y est pas de calibre. Et que s'il y avait quelqu'un de calibre à l'heure actuelle, il planterait Trump. C'est ça que je dis.
Il y a un auditeur qui m'écrit et il me dit « Joe Biden, c'est la version américaine de Stéphane Dion. » Et pas pire, je trouve qu'il y a peut-être pas tard. Non, mais c'est pas fou.
Ouais, ben non, mais Joe Biden, non. Quand tu as suivi Joe...
Et c'est auto,
Mais Joe Biden, là, c'est le classique politicien irlandais, là, tu sais, qui en dit toujours trop, puis qui a fait de la bosse. C'est un gaffeur professionnel, là. Mais malgré ça, c'est un gars qui était un bon orateur, qui était un bon tribun.
Il paraît bien. Il y a l'image parfaite, le typique candidat américain.
Ah oui. Quand il porte ses verres fumés, tout ça, c'est un bel homme. Il est toujours très élégant et tout ça.
Il sourit tout le temps.
Il sourit tout le temps, mais à l'heure actuelle, on voit bien qu'il n'est plus là. Puis il y a des gens autour de ça, dont Obama lui-même, qui doivent se dire « Oh là là! » Et j'ai vu quelqu'un récemment qui a vu Biden dans les derniers mois et qui me dit... L'expression en anglais, c'est « He has lost his fastball ». Sa balle rapide, elle marche plus pantoute.
Il n'est plus à la même vitesse que les autres. Non, tandis, je sais qu'en campagne électorale, il faut que tu sois sharp. Là, ça va vite, ben là, ça roule au quart de tour d'un débat. Il va se faire bouffer.
Ben oui, un bulldozer comme Trump, il va littéralement le dévorer, tu sais. Alors, mais...
Il y a quelque chose qui est surprenant. Faut que je te parle de ça, Luc, parce que j'ai regardé les paris à Vegas, OK? Parce que, tu sais, aux États-Unis, tout passe par Vegas. Mm-hmm. Et... Autant les sondages mettent Biden avec une forte avance. Hein? Trump est pas dans le game là, au niveau des sondages, là, un peu comme la dernière fois, en fait. Là.
Mais il est beaucoup trop tôt là, pour que ça soit vraiment significatif.
Mais il y a encore des sondages, mais l'écart est quand même signifiant. Là, ils ne sont pas dans la marge d'erreur. Là, c'est 10, 12 points. Là, bon. Ouais. Et à Vegas, les gens qui parient pour qui va gagner, c'est du 2, 3 pour 1 en faveur de Trump. Fait, qu'est-ce que les parieurs savent que les sondeurs ne connaissent pas?
Ben, ce que les parieurs savent, c'est ce qu'on est en train de se dire. Il s'agit de regarder Biden aller pour te rendre compte que ce gars-là n'est plus la moitié de ce qu'il a déjà été. Qu'est-ce que tu veux? Tu mettrais un président comme lui au premier stade de la démence, un peu mélangé, dans une situation de crise. Ça sera pas fini, la crise, à la fin de l'élection. Mais regarde...
Peut-être en pleine deuxième vague, en plus, en pleine
moi, je continue d'avoir peur d'une espèce de guerre civile larvée, là, c'est-à-dire pas une guerre civile comme celle qui a eu lieu au 19e siècle, une guerre civile où toutes sortes de l'équivalent du maquis français, là, des gens là, qui tuent du monde. J'ai peur de ça, moi, j'ai vraiment peur de
ça. Mais en même temps, c'est drôle, hein, mais moi, là, quand il y a un climat comme ça, ça favorise normalement le pouvoir en place. Parce que t'as peur du changement. Parce que tu dis là, wow, là, on va-tu se ramasser avec une gang de wahoo? Ça prend quelqu'un de solide pour le tenir tête. Puis tu vois, puis Trump, il est capable d'être, tu sais, quand il est capable de se battre, là. Fait que tu dis, lui, là, si je suis en arrière de lui, là, j'aime mieux être dans son équipe qu'être contre lui. C'est pas impossible que ça l'aide ultimement, là.
Mais ce qu'on voit aujourd'hui, Mark Esper, le secrétaire à la Défense, oui, qui dit qu'il est en désaccord avec son président, là, il va falloir voir, est-ce que Trump va le sacrer dehors? Puis la deuxième question, c'est si jamais Trump... Tu sais, on veut pas aller trop dans les détails techniques pour pas ennuyer les gens, là, mais aux États-Unis, le président des États-Unis n'a pas le pouvoir de déployer l'armée régulière sur le territoire à moins d'invoquer une loi adoptée en 1807 qui est une loi qui portait sur l'insurrection. Et pour l'invoquer, il y a toutes sortes de précédents. Bon, alors, il a cependant le droit de donner ordre en tant que commandant en chef à ce qu'on appelle le Washington Garrison, la garnison de Washington. C'est une armée qui, d'abord, elle fait partie, c'est une division, c'est une composante de l'armée régulière, et qui avait été installée là au début de la République parce que, justement, il fallait se protéger, puis protéger la présidence. Avec le temps, le Washington Garrison, c'est devenu la division militaire qui fait tout ce qui est cérémonial. Les visites d'État, les funérailles d'État, l'entretien du cimetière d'Arlington, ouais, et tout ça. Mais ça reste que c'est une division militaire à la tête de laquelle il y a un général. Et Trump a le pouvoir, sans poser de questions, de dire à Washington Garrison, tu interviens, OK? La dernière fois que ça s'est produit dans ces termes-là,
ouais,
c'était en 1928, je crois. Le général MacArthur, sa carrière avait, pour ainsi dire, quasiment pris fin, là. Il était général commandant du Washington Garrison, puis il y avait des vétérans de la Première Guerre mondiale qui avaient commencé à faire des émeutes parce qu'on leur avait promis toutes sortes de versements d'argent pour se refaire une vie, puis qu'il n'y avait jamais rien eu. Puis il y a eu l'ordre de partir puis de cleaner la place. Il l'a fait pas à peu près. Il s'est fait, pour ainsi dire, quasiment congédié de l'armée. Il est devenu maréchal en chef de l'armée des Philippines, puis il a été réactivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Trump a le pouvoir de dire au général commandant du Washington Garrison, tire dans le tas. La vraie question que je pose est la suivante. Est-ce qu'un général de l'armée américaine pourrait dire non? Parce que quand un général de l'armée dit non à son commandant en chef, on n'est pas loin de la mutinerie.
Eh hey boy, fait que c'est quasiment un coup d'état.
Oui, c'est là qu'on s'en va, puis c'est pourquoi j'attache tant d'importance à ce que Esper a fait ce matin. Lui, il parle à ses généraux, puis ils ont dit, regarde, nous autres, là, fais attention parce qu'on tire pas dans le tas.
Mais parlant de tirer, il y a une autre affaire aussi. Aux États-Unis, le droit de propriété est très bien défendu. Hein? Oui. C'est suprême. Oui. Et quand les gens envahissent ta propriété, te vandalisent, te volent, t'as le droit de les tirer. Il y a plein d'États, là. Il y a le Castle Clause, là. Ta maison, c'est un château, puis si quelqu'un essaie de rentrer dans ton château, ben, il perd tous ses droits à partir du moment où il rentre illégalement chez vous. À un moment donné, là, si les émeutes continuent de même, il y a des commerçants, puis c'est déjà commencé, qui disent on va se faire justice nous-mêmes, là. Mm-hmm. On va protéger notre butin.
Mais c'est ce que je veux dire par une guerre civile larvée.
Puis ça, c'est grave, là. Ça veut dire qu'ils vont se tirer dessus, là.
Et... Ben, c'est ce que je veux dire aussi. Maintenant, l'armée régulière, pas la garde nationale. Et Trump, encore une fois, je te le répète, le Washington Garrison, ça doit être à peu près 7-8 000 soldats. Il y a 7-8 000 soldats avec les armes puis tout ce que tu veux. Ils ont beau faire du cérémonial, là, c'est des soldats entraînés qui viennent des Marines puis des autres divisions de l'armée. Il peut donner l'ordre de casse la manifestation qui est là, puis the rules of engagement sont pas mal simples. Utilise toute la force dont tu penses avoir besoin.
Avant de finir, Luc, je veux te parler de quelque chose parce que c'est un auditeur qui m'envoie l'idée. Là. Il me dit, est-ce que les gens qui vont voter démocrate pourraient voter pour le candidat à la vice-présidence? Ils pourraient pas mettre Cuomo à candidat à la vice-présidence en sachant qu'on va destituer éventuellement Biden? C'est-tu trop tiré par les cheveux, cette affaire-là?
Ben, disons que théoriquement, ça a du bon sens, mais quand tu passes à l'aspect pratique, c'est d'autres choses. Là. Une fois qu'un président est élu...
Il va voir rester là.
Ben, le destituer, on a vu, ils ont essayé ça avec Trump, là, ça va pas bien loin. Ils l'ont essayé avec Clinton, ça va pas bien loin non plus. La seule fois qu'ils ont réussi, c'était avec Nixon, puis il a pas été destitué, il a démissionné avant de l'être. Alors, ce sont des scénarios attrayants, mais pas très réalistes.
Mais ça pourrait quand même, Cuomo pourrait quand même être le candidat à vice-présidence de... Quoi que non, il a dit qu'il prendrait une femme.
Il a dit qu'il prendrait une femme, puis là, paraît-il qu'il veut absolument une femme de couleur.
Alors, oh boy!
Alors Cuomo, il se qualifie pas beaucoup là-dedans.
Mais il devrait prendre la personne la plus compétente tout court, parce que cette personne-là risque d'être présidente plus vite que tard. Là.
En effet, puis moi, je veux dire, Cuomo serait un redoutable candidat. Là. C'est tout un tribun.
À suivre. Luc Lavoie, merci beaucoup.
Toujours
à la semaine prochaine.
Plaisir. Bye. Okay, bye-bye.